Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. On retrouve Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Christelle. Bon, vu la météo, je garde mon chapeau.
Bien vous compris. Avez raison.
Mais alors, vous savez, toute l'équipe de la curiosité se moque de moi parce qu'avec ce chapeau, soi-disant, je ressemble à l'inspecteur Gadget.
Ah bah, je vais descendre voir.
Des années d'études pour subir ça au quotidien.
Bon, allez, Christelle.
Mais vous avez de l'autodérision, Thomas.
J'espère bien. Allez, c'est parti pour une heure de curiosité et de gai savoir avec Anaïs Bouton. Bonjour Anaïs.
Ouais, bonjour Thomas. Bonjour à tous.
Rien à dire sur l'inspecteur Gadget.
Bah, si, je peux vous la chanter. Enfin, on va
juste
vous épargner ça. Voilà.
Ça commence mal.
Allez, ici, on se cultive dans la bonne humeur jusqu'à 15h avec deux grands thèmes. Tout à l'heure, vers 14h30, on dévoile le quotidien des sosies des stars et vous allez voir, Johnny Hallyday et Claude François vont pouvoir discuter, Thomas.
Allez, tout de suite sur RTL, une tribu qui veut rester coupée de notre monde, de notre civilisation, les Sentinelles.
Il s'appelait John Shaw, un Américain, il avait 27 ans. Son corps fut transpercé de flèches et puis traîné sur une plage de l'océan Indien.
RTL.
Ce sont ces assassins que l'on respecte et qui même fascinent. Il faut dire qu'ils témoignent d'une humanité des origines.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Les Sentinelles, ils sont quelques dizaines d'êtres humains à la peau couleur de cendre sur une île de l'archipel des Andamans.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait de l'émission 28 minutes avec le journaliste Claude Askolovitch qui raconte donc la mort de cet Américain de 27 ans. Il voulait évangéliser effectivement ce peuple et il a été tué à coups de flèche sur cette île de l'archipel indien d'Andaman et Nicobar. Bonjour Alexandre de Reims.
Bonjour Thomas.
Bienvenue. Heureux de vous retrouver dans la curiosité. Vous connaissez bien cette région, vous y êtes allé plusieurs fois pour rencontrer les Jarawa. C'est une autre tribu isolée qui refuse le contact avec le monde extérieur pour préserver son mode de vie. Alors, on va commencer par les situer, ces peuples, ces tribus, sur une carte. On est dans quelle région du monde ?
Alors, on est en Asie du Sud-Est. L'archipel des Andamans est situé de l'autre côté du golfe du Bengale, donc de l'autre côté de l'Inde. Il est le nord de l'archipel est en gros à 300 km au sud de Rangoon et à 1500 km au nord-ouest de Phuket, en Thaïlande.
Donc c'est un archipel, c'est plein de petites îles, c'est ça ?
Alors il y a une grande île principale en fait qui est composée de trois îles qui s'appelle la Grande Andaman et qui fait 400 km de long. Il y a une île plus petite qu'on appelle la Petite Andaman, qui est au sud. Et puis il y a une myriade de petites îles qui sont pratiquement, qui étaient pratiquement toutes inhabitées et qui sont aujourd'hui offertes aux touristes puisqu'il y a des hôtels de luxe, etc. Et on va dire que depuis 2000, le tourisme s'est énormément développé dans cet archipel.
Et donc ça pose évidemment des questions pour le mode de vie de ces tribus. Les Sentinelles, pourquoi on les appelle comme ça, tiens ?
Alors c'est une île qui s'appelle la Sentinelle du Nord, North Sentinel en anglais, donc on les appelait les Sentinelles. Évidemment, c'est pas leur nom. Les Jarawa non plus, c'est pas leur nom. Ce sont d'autres tribus afro-asiatiques qui leur ont donné ce nom.
Oui, c'est ça, c'est le nom qu'on leur donne, mais on sait comment ils s'appellent eux-mêmes ?
Alors les Jarawa m'ont dit que la signification du nom qu'ils se donnaient, dont j'ai pas en mémoire exactement, veut dire les êtres magnifiques. Souvent, les chasseurs-cueilleurs s'appellent les êtres humains, les êtres magnifiques. C'est vraiment récurrent, que ce soit dans les peuples du chasseur-cueilleur d'Amazonie, de Papouasie ou aux Andamans.
Et est-ce qu'on sait pourquoi ils ont tué ce jeune Américain ?
Alors, il faut bien comprendre qui sont d'abord les Sentinelles, les Jarawa, les Onji et les grands Andamanais. C'est un peuple afro-asiatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des Africains pygmées qui sont partis d'Afrique entre moins 100 000 et moins 70 000 ans, c'est-à-dire ce sont les premiers homo sapiens qui sont partis à la découverte du monde pour donner l'homme d'aujourd'hui. Nous sommes, nous, tous avec 95 à 99% d'ADN homo sapiens. On a aussi un peu de Néandertal, d'Homo erectus, etc. Ces tribus-là sont restées totalement intactes depuis le début, on va dire, du voyage extraordinaire qu'a fait l'homo sapiens en dehors de l'Afrique. Et il est d'abord parti par les côtes vers l'Est, puisque c'est l'ère glaciaire à l'époque, donc il ne va pas aller vers l'Europe. Et donc les Jarawa et beaucoup d'autres tribus vont se retrouver en Asie du Sud-Est, sur un continent énorme qui allait de la Birmanie jusqu'en Papouasie. Et puis avec la fin de l'ère glaciaire, la montée des eaux, ils vont se retrouver isolés sur cet archipel. Et ils vont se retrouver isolés quasiment pendant 50 000 ans. C'est-à-dire que le début de la fin, c'est 1789. Pour eux aussi, c'est une date importante, mais c'est pas celle de la Révolution. Et puis aujourd'hui, on arrive à la fin, à la phase finale de l'assimilation et de l'éclosion de ces peuples.
Pourquoi vous dites 1789 ? Parce que c'est le premier contact avec des Européens ou des Occidentaux ou qu'est-ce qui leur arrive à ce moment-là ?
Alors, il y a eu d'autres contacts. Avant, Marco Polo parle de ces chasseurs de têtes. C'est un archipel qui est en dehors des routes maritimes parce qu'il est estimé dangereux. Il est peuplé de tribus qui sont qualifiées de cannibales, de chasseurs de têtes. Donc, on ne va pas vraiment aux Andamans. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher là-bas. C'est un Français, au début, en 1607, je crois, qui est le premier explorateur à aller là-bas. Mais en 1789, les Anglais vont racheter ces îles aux Danois, parce que les Danois avaient décidé que c'était à eux, et ils vont installer un bagne qui va être le pire bagne de l'époque sur une des petites îles en face de la Grande Andaman. Et ils vont monter un comptoir qui s'appelle Port Blair, qui est aujourd'hui la capitale. Et donc, ils vont enfermer dans ce pénitencier, ils vont enfermer les premiers nationalistes hindous. Et c'est comme ça que va commencer l'intrusion des Britanniques et des Indiens sur ces îles et que va commencer la fin de ces peuples, Sentinelles, Grands Andamanais, Anji et Jarawa.
D'accord, j'ai bien compris. Et donc depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, tout simplement. Et ça explique leur réaction quand cet Américain a voulu les évangéliser.
Alors, d'abord, ce sont des peuples qui ne veulent pas de contact avec notre monde. Et c'est très, très clair que ce soit les Sentinelles. Ben, c'est-à-dire que quand on voit l'histoire, on a en effet en droit de se poser cette question. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui. Qu'est-ce qui se passe en 1859 ? En 1859, alors que les Anglais mettent des Indiens dans ce pénitencier parce qu'ils veulent l'indépendance, ils vont les faire travailler de force dans la forêt, couper les arbres et planter des EVA. Et donc, évidemment, les Grands Andamanais, qui est la tribu principale de cette île, elle va commencer à attaquer ces groupes principalement des Indiens, donc de forçats, en fait. Hein. Et puis, d'escarmouche en escarmouche, en 1859, ils vont attaquer Port Blair, donc plusieurs milliers de Grands Andamanais, qui sont petits par la taille, avec leurs arcs et leurs flèches, vont attaquer la ville anglaise et ils vont être massacrés. Il y a d'ailleurs toujours un monument qui à la mémoire de ce massacre horrible. Et là, à partir de là, ça va vraiment être le début de la fin. Et puis, il y a cet homme, Portman, cet officier anglais dans les fins du 19e, qui va devenir le premier officier en charge des affaires tribales à l'époque anglaise. Et lui va trouver très sympathique d'aller visiter les Jarawas, les Sentinelles, etc., afin d'enlever des gens, des femmes, des enfants. Et il va évidemment avoir une très très mauvaise réputation au sein de ces peuples.
Donc on comprend, c'est pour ça qu'il fallait parler un peu de l'histoire, ce qui explique ce rejet, on va dire, des Occidentaux, la palpe de ces peuples, les Sentinelles, les Jarawas, les Onji. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est comment ils vivent aujourd'hui. Vous allez nous raconter ça, Alexandre de Reims, puisque vous avez eu la chance de les côtoyer pour un documentaire qui est sorti au cinéma en mai dernier. On vous raconte, finalement, les premiers chasseurs-cueilleurs, comment vivaient nos ancêtres, les Homo sapiens. Ça tout de suite.
Thomas Hugues.
Si je vous parle de l'île North Sentinel.
Anaïs Bouton.
Cette île est réputée l'une des plus dangereuses au monde.
Sur RTL.
La population qui y vit, donc les Sentinelles, n'a rien d'accueillant.
La curiosité.
Et est prêt à tout pour conserver son île intacte et toutes leurs coutumes.
Est un vilain défaut.
On les appelle les Sentinelles, les Jarawas, les Onji. Ce sont des tribus qui vivent isolées sur les petites îles de l'archipel d'Andaman et Nicobar, dans le golfe du Bengale. Des tribus qui vivent finalement comme les premiers humains et qui refusent le contact avec notre civilisation. Alexandre de Reims, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez rencontré les Jarawas pour un documentaire extraordinaire. « Nous sommes l'humanité », c'est le titre de votre doc. Alors, comment vivent-ils ?
Alors, tout d'abord, je voudrais dire que les Jarawas sont comme les Sentinelles. C'est-à-dire que si vous voulez aller les voir et qu'ils ne savent pas qui vous êtes et qu'ils ne vous attendent pas, vous allez vous prendre une bordée de flèches.
Comment vous avez fait, vous, alors ?
Ah, mais je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour me recevoir, bien sûr. Donc,
racontez-nous, dites-nous là, je voudrais vraiment qu'on les voit vivre. Comment ça se passe ? C'est quoi leur vie ?
Leur vie, c'est une journée sans fin dans le jardin d'Éden. En fait, moi, je vais là-bas dès 2012 parce que j'apprends qu'il y a une route qui passe à travers le territoire des Jarawas et que donc il y a en fait un zoo humain. C'est-à-dire tous les jours, l'armée indienne organise un safari photo. Donc des touristes indiens viennent escorter sur cette route et les policiers locaux vont chercher des Jarawa, les mettre au bord de la route pour qu'on les prenne en photo. Et donc ça crée un scandale mondial, la route a dû être fermée, elle a été réouverte ensuite, etc. Bon, toujours est-il que je me rends compte à ce moment-là que les Jarawa, j'apprends dans la presse locale qu'ils sont sortis pour se plaindre auprès des postes de police locaux. Donc ça veut dire pour la première fois, ils ont compris qu'ils devaient parler au monde parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des femmes qui sont enlevées, qui sont kidnappées, qui sont violées, et des enfants qui sont morts. En fait, la situation se dégrade énormément pour ce peuple qui est presque comme les Sentinelles, mais qui est déjà un peu atteint. Les Sentinelles, eux, c'est le seul peuple au monde qui n'a jamais été atteint par notre civilisation.
Alors, ça, c'est le contexte. Encore une fois, on veut les voir vivre. Alexandre, alors, faut nous raconter, vous êtes le seul à les avoir
j'arrive
rencontrés.
J'arrive un jour, donc après moult aventures, parce qu'il faut pouvoir rentrer dans ce territoire, échapper aux patrouilles de l'armée indienne, parce que c'est 7 ans de prison si on s'est attrapé. Nos guides sont allés les voir en amont pour leur demander s'ils sont d'accord pour nous rencontrer, s'ils ont envie de nous parler. Sinon, non, on serait tous morts aujourd'hui. Et donc, j'arrive en fin d'après-midi, et les premiers Jarawa que je vois, ce sont deux femmes, dont une avec un petit bébé, une petite fille. Donc, je suis avec mon équipe, avec Claire Bévert, la photographe, la productrice, et puis le chef opérateur, caméraman, le directeur photo, Raphaël.
Elles sont habillées comment ?
Elles sont à moitié nues, elles portent des morceaux de robe ou des robes. Depuis peu, ils ont commencé à porter des habits. Je pourrais vous expliquer pourquoi plus tard, ça fait partie de cette contamination de notre monde. Mmh. En effet, ils ont quelques outils, des lampes de poche, des marteaux, mais en fait, ils sont encore très très proches de leur façon de vivre qui est multimillénaire.
Donc des chasseurs-cueilleurs, c'est ça ?
Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Le matin, en fait, ils se lèvent, ils chantent. Voilà, ils chantent tout le temps, c'est un vrai mode de communication. Ils chantent pour dire qu'ils sont contents, pour dire qu'ils ont fabriqué un pot de miel, pour dire qu'ils vont à la chasse, pour parler de la journée, pour dire qu'ils sont heureux tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui revient en permanence, cette solidarité. Ils mangent.
Ils mangent
du daim, ils mangent du cochon sauvage, ils mangent des œufs de tortue marine, du lézard. Ils mangent aussi un peu de riz parce que les gardes forestiers indiens qui les visitent, qui vont les voir, leur donnent un peu de riz, un peu des habits, un peu, etc., etc. Donc déjà, ça a commencé à changer. Mais en fait, c'est une société totalement harmonieuse. Ils vont pas passer la journée à chasser. En une heure et demie, ils reviennent avec de quoi manger pendant 2 ou 3 jours. Donc ils préparent à manger et ensuite, c'est la pause. C'est-à-dire que les Jarawa parlent entre eux, rigolent, chantent, se font des colliers de fleurs parce qu'il faut être beau. Ils vont à la pêche. Les hommes s'occupent des bébés, les femmes vont à la pêche.
Il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes et les femmes.
Il n'y a aucune hiérarchie. Mmh. C'est une égalité parfaite. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'y suis pour aller pour leur donner la parole. Est-ce que vous voulez rester comme vous êtes, etc. Quel problème vous rencontrez ? Et là, d'un coup, je découvre une société humaine qui est sans aucun doute la plus ancienne au monde, la plus intacte. Et là, ce sont des gens qui vivent dans une harmonie et une symbiose totale avec la nature, qui n'y a jamais, on va dire, de disputes, de fâcheries, de violences, d'agressivité. Parce que de toute façon, tout ce qui pourrait mettre en péril la survie du clan, c'est-à-dire tous les jours, il faut aller chercher à manger dans la jungle, il faut aller chasser, il faut aller pêcher, ils peuvent rien conserver à part le miel. Eh bien, tout ce qui pourrait entraver la marche du clan est pas proscrite, mais inimaginable. J'imaginerais pas d'aller se taper dessus et de mettre en péril le clan. Et donc, en effet, c'est assez impressionnant de se retrouver dans cette atmosphère magnifique, bercée de chants, de rires, d'harmonie. C'est presque incroyable.
Et comment chantent-ils les Jarawa ? On va les écouter. Et juste après, on continue de partager leur quotidien dans le golfe du Bengale, en Inde, dans les îles Andaman et Nicobar. À tout de suite.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
Ils sont sur une toute petite île, assez lointaine, assez isolée. Donc
sur RTL.
Et c'est quasiment impossible d'y aller aussi. Et puis surtout, ils veulent parler à personne.
Toujours avec Alexandre de Reims, on découvre les Sentinelles, les Jarawa, les Onji. Ce sont ces tribus chasseurs-cueilleurs. Vous nous disiez, on a l'impression quand on les rencontre pour la première fois de se retrouver face aux premiers humains il y a quelques dizaines de milliers d'années. Alexandre de Reims, est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Est-ce qu'il y a un chef de la tribu ?
Alors ce qui est assez incroyable, c'est que c'est une société qui vit sans chef, donc c'est une égalité parfaite, c'est l'autonomie, chacun décide comment il va apporter sa pierre au clan. Voilà, ils veulent aller à la chasse, bon ils disent, bon les gars, on va à la chasse. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas un rituel étrange.
Mais il n'y a pas un guérisseur, il n'y a pas un chasseur, il n'y a pas une sorte de spécialisation, ils sont assez peu nombreux,
ils sont pas du tout spécialisés. Justement, la spécialisation, ça vient vraiment de l'ère agricole. Ils ne sont pas du tout spécialisés. Chacun fait sa part. Alors évidemment, Takulu, c'est le meilleur chasseur. Donc quand le clan va encercler un daim, c'est Takulu qui va tirer la flèche parce que bah ils ont envie que de tuer le daim. Mais chacun, il n'y a pas de rivalité. Voilà, chacun apporte sa pierre, s'investit à sa façon en fonction de ses capacités.
Ils ont un petit village. Ils vivent
alors
dans
en fait
des
c'est des clans de quelques dizaines de familles, environ 60 personnes qui vivent. Ils dorment par terre, les uns près des autres, donc par foyer, par famille. Ils plantent des pieux dans le sol qui sont les dossiers pour s'adosser. Ils ont le foyer où ils font leur cuisine, évidemment. Et puis, en fait, tout le monde peut se voir vivre. C'est une espèce de transparence totale.
Mais il y a un petit toit. Enfin,
alors, ils ont quelques huttes pour les saisons des pluies, pour s'abriter. Mais sinon, non, ils dorment à la Belle Étoile. Ils dorment à la Belle Étoile, c'est très, très basique. Ils dorment sur un lit de feuilles. C'est un rondin de bois, l'oreiller.
Est-ce que c'est, il y a une cellule familiale?
La cellule
familiale. Papa, maman, les enfants, est-ce que ça existe?
Alors, ils ont un rituel de mariage. Je dis mariage parce que ça nous fait penser au nôtre. Ouais. Les couples se choisissent par amour, même si des familles organisent des rencontres dans les clans différents. Évidemment, ils ont géré la consanguinité depuis 50 000 ans. C'est très beau dans le film quand ils en parlent, quand Italé dit « Takulu a murmuré mon nom à l'oreille et je suis tombé amoureux, ça a été un coup de foudre ». Ils sont très romantiques. Ils doivent partager un poisson en entier, un poisson cuit évidemment, mais ils doivent manger évidemment les bonnes parties, les entrailles, donc ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour le pire. Pour le meilleur.
Voilà, ça c'est le rituel du mariage.
C'est leur rituel du mariage. Alors, ils n'ont pas de croyance non plus. Il n'y a pas de
religion.
Il n'y a pas de monde des esprits. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe après la mort. Ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Et ils m'ont dit il n'y a rien après la mort. C'est triste, mais il n'y a rien. Et c'est assez incroyable de voir qu'il n'y a pas de déification, de personnification, des plantes, etc., des rivières.
Du soleil.
C'est tellement ancien, on va dire, qu'il n'y a même pas encore de croyances telles qu'animistes, par exemple.
Alexandre de Reims, on parle de quelques centaines d'individus. Hein, les Jarawa, c'est 480. Les Sentinelles.
Entre 40 et 200.
Et les Onji,
entre 80 et 60.
Voilà, qui sont peut-être les derniers à vivre comme les chasseurs-cueilleurs, comme nos ancêtres. Et là, on va parler des Jarawa, ils sont en danger à cause, vous l'avez évoqué rapidement, d'une route que les autorités laissent traverser leur territoire. C'est quoi? C'est une espèce de tourisme comme aux zoos?
C'est un zoo humain, en effet, l'île principale qui fait 400 km de long. La partie centrale de cette île, c'est le territoire des Jarawa. Tout autour, c'est des villes indiennes, des villages indiens. Donc voilà, c'est un tout petit territoire qui leur reste aujourd'hui. Et il y a une route, évidemment, qui connecte le sud et le nord de l'île, qui traverse ce territoire. Cette route a été faite pour les transports, mais il y a des ferries, on peut passer par la mer. Et j'apprends en 2012 que, en fait, cette route est utilisée par des agences de voyage, en fait, qui vendent un safari photo aux touristes. Souvent fortunés parce que c'est cher d'aller là-bas. Ils viennent en 4x4, ils sont escortés par l'armée indienne et 4 fois par jour, il y a un tour, c'est-à-dire qu'ils traversent le territoire et ils prennent des Jarawa en photo qui ont été mis de force au bord de cette route. Ça, c'est la première chose. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer en ce moment. D'abord, la route est en train d'être élargie, donc ils continuent. Il n'y aura plus de ferry. Et puis, ils ont ouvert des écoles spéciales pour les enfants Jarawa, pour les rééduquer. Et donc, voilà, on est dans l'assimilation forcée, on est dans le génocide culturel et on est en ce moment sur une espèce de phase finale de ces peuples qui sont tout simplement en train de disparaître. Et donc, voilà,
ces
il y a urgence.
Ces peuples autochtones qui ont un message pour nous, on vous le délivre dans un instant. Et puis juste après, on change de thème. Vous allez découvrir les coulisses du monde des sosies sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et toujours avec nous, le journaliste Alexandre de Reims. Avec vous, on découvre les derniers humains à vivre comme il y a 50 000 ans, ou à essayer, à tenter de le faire, et notamment les Jarawa en Inde. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous avez pu entrer en contact, Alexandre de Reims, avec ces femmes, ces hommes, ces enfants, que les autorités indiennes tentent là, en ce moment, par tous les moyens, d'assimiler, notamment avec cette route de la honte, des touristes qui viennent se prendre en photo avec eux. Ils sont forcés à être au bord de la route. Est-ce qu'on peut les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors, ils sont très très loin de nous, on se dit on peut rien faire.
Alors en fait, il y a pas vraiment d'organisation qui soutient, qui aide les Jarawa. C'est compliqué, hein. C'est pas comme les Kogis, on peut pas aller les voir ou les faire venir en Europe pour qu'ils parlent pour eux-mêmes. Il faut pas y aller, il faut pas les embêter. Ils veulent voir personne. Donc déjà ça c'est un problème. Alors nous après le film, ce film il est important parce que ça nous permet d'abord de voir comment vivent les Jarawa.
Mais nous sommes l'humanité.
Les sentinelles vivent de la même façon. On peut surtout pour la première fois entendre ce qu'ils ont à dire puisque on avait des guides qui parlent leur langue. Donc on a enfin leur message.
Et quel message vous ont-ils laissé? justement.
D'abord un message de détermination, c'est-à-dire qu'ils veulent rester comme ils sont, et un message aussi assez universel, on va dire, de valeurs humaines qu'on essaye de retrouver aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, mais et cette société sans hiérarchie qui a perduré pendant plus de 100 000 ans. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, et puis c'est des peuples qui sont plus que moins de 1000 personnes en tout, et qui sont gravement en danger.
Alors on peut les aider.
On a lancé une pétition en ligne. Il faut aller sur, faut taper Jarawas, hein, jarawas.com. Là, vous pouvez signer cette pétition. On a 265 000 signatures aujourd'hui. Mm-hmm. Cette pétition, elle appelle le gouvernement indien à fermer cette route du zoo humain. Il faut savoir qu'en avril, c'est les élections générales en Inde, et qu'actuellement, le gouvernement, c'est le BJP, suprémaciste hindou, qui fait tout pour éliminer les Jarawas. Si c'est de nouveau le parti de Sonia Gandhi et donc de son fils Rahul Gandhi qui passe, on a de grandes chances que la route soit fermée et qu'il y ait un moratoire et qu'on les laisse tranquilles. Mmh. Donc signer la pétition, ça permet de se compter, ça permet de faire pression, c'est important. Et puis voilà, on peut toujours voir le film sur une plateforme VOD qu'on trouve sur jarawas.com, c'est 6 euros la semaine. La moitié de cette somme, elle est versée à l'association Jarawas. On dépose les statuts lundi prochain. Donc on peut adhérer, on peut faire des dons, on peut regarder ce film, et puis on peut acheter le livre photo, c'est un beau cadeau Noël, 150 pages, il est magnifique. C'est filmé pendant, avec les Jarawas, donc c'est toute cette beauté, tout ce peuple qui est dans ce livre, et la moitié des 30 euros est versée à l'association.
Et ben voilà,
et puis
le
voilà,
message
faut,
est
faut y aller quoi.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.